Père dans la nuit des temps, ça va ? Non, parce que c'est pas tout à fait vrai. En gros, les livres de la loi, les 5 premiers livres. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis ceux qu'on appelle les petits, mais quand même Osée, Amos, Michée, quelques prophètes. Les psaumes, en tout cas en partie. Les proverbes, en tout cas en partie. Le livre de Job, ça va ? Voilà. Quand est-ce que ça s'est achevé, cette affaire-là ? Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont continué le travail, hein ? On va en reparler, ça s'est achevé sur un ou deux siècles. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au début du IIIe siècle, vers 285 avant Jésus-Christ, c'était suffisamment achevé pour qu'on commence, alors pour des raisons autres, à le traduire en Égypte, à le traduire en grec. Pour traduire quelque chose, il faut que le livre soit bouclé. On ne traduit pas un livre qu'on est en train de changer tout le temps, en tout cas pas à l'époque. Voilà. Donc c'était terminé, bien terminé au IIIe siècle. Donc on considère que c'est 6e, 5e, début du 4e siècle, que ces choses-là se mettent par écrit. Ça marche ? Ouais. Alors après, il y a la traduction en grec dont on reparlera, mais est-ce que c'est pas le... J'y vois rien. Non, j'ai encore un tout petit peu de temps. Ouais. Je vais encore dire quelques trucs, et je vous laisse pour déjeuner, mais je veux préciser des petites choses maintenant, des points qui peuvent être posés question. Ce livre, qui est donc mis en forme, en gros, entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère, qu'on va appeler en grec la Bible, en quelle langue est-il écrit ? Il est écrit en hébreu. En hébreu, et on va appeler ce qui va être fixé en hébreu plus tard, évidemment, mais on a déjà l'essentiel, le texte massorétique. Voilà, le texte massorétique. Alors, pourquoi massorétique ? Ça s'appellera massorétique au 8e siècle après Jésus-Christ. Hein ? Parce que les massorètes, ce sont ceux qui ont mis les voyelles. Un texte en hébreu, aujourd'hui encore, hein, en Israël, c'est comme les textes arabes. Quand ils ne sont pas vocalisés, si vous ne savez pas la langue, vous ne pouvez pas lire. Il n'y a que des consonnes. Et ça, c'est encore comme ça dans les journaux. Hein ? Il n'y a que des consonnes. Si je vous donne les 3 consonnes A, M, R, qu'est-ce que vous faites ? En hébreu, c'est « amar », c'est le verbe « dire ». Mais en français, « amr », c'est « amer », c'est « amour », c'est « émir ». Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'enlève les voyelles, c'est des langues consonantiques qu'on vocalise quand on sait la langue. Les mêmes consonnes peuvent être lues différemment. Et ce sont les massorètes, c'est-à-dire des savants qui, entre le 5e et le 8e siècle, ou même 6e et le 8e siècle, après Jésus-Christ, qui ont fixé les lettres en disant « attention, il faut lire comme ça ». Avant, il y avait des traditions de lecture, mais ça restait quand même possible de changer un peu. Ça marche ? Donc, l'Ancien Testament juif, qui ne s'appelle pas l'Ancien Testament, je vais dire son nom après, le Tanakh, est écrit en hébreu. Il y a quelques rares passages en araméen, parce qu'à partir du 5e siècle, un peu après le retour, déjà au retour, on ne savait plus l'hébreu. Seuls les savants, les prêtres, savaient l'hébreu. Le peuple parlait araméen, parce que c'était la langue diplomatique de l'Empire babylonien et après de l'Empire perse. Tout le monde parlait l'araméen, qui est une langue cousine, mais cousine comme le sont l'espagnol et le portugais. Si vous dites à un espagnol que le portugais et l'espagnol, c'est pareil, vous ne ressortez pas vivant. Hein. Voilà. Langue cousine. Il y a beaucoup de ressemblances, mais ce n'est pas vrai qu'on peut le lire si on sait. L'hébreu, on l'apprenait. Quand ça a été traduit au 3e siècle avant Jésus-Christ, 285-282, les 5 livres de la loi sont traduits. Après, c'est le prophète Isaïe et les psaumes qui sont traduits, en grec. Pourquoi en grec ? Parce que désormais, c'est Alexandre le Grand qui a couvert le monde, qui est mort rapidement, mais qui a laissé ses terres conquises jusqu'aux abords de l'Inde à ses généraux qui parlent grec. L'Égypte est dirigé par des Grecs. Et le roi grec dit, on me traduit ce que... Alors il a sous sa juridiction des gens qui parlent égyptien, des gens qui parlent grec, des gens qui parlent araméen en pagaille. Il veut savoir quelles sont les lois de ces gens-là. Il fait traduire les paroliers égyptiens, il fait traduire les livres de la loi d'hébreu en grec. Ça va ? Évidemment, le monde juif qui parlait grec en profite. Et après, on va continuer, on va traduire tout le reste, en voyant que c'est évidemment très profitable à ces Juifs qui ne savent plus l'hébreu et qui parlent le grec. Cette traduction grecque, on l'appelle la Septante. Pourquoi la Septante ? Parce qu'il y a des très jolies légendes. Il a fait venir d'Israël, de Jérusalem, 70 ou 72, c'est comme les disciples, hein, 70 ou 72, parce que 72, c'est 12 fois 6. Mais 70, ça sonne mieux. Il a fait venir 70 ou 72 savants, le roi Ptolémée, hein, le roi grec d'Alexandrie. Il les a installés sur la plage à Pharos, chacun dans une petite maison où ils travaillaient 6 heures ou 7 heures par jour. Ils avaient des mets extraordinaires, ils étaient bien soignés, machin. On les a enfermés chacun dans sa petite maison. Ils traduisent la Bible en grec, enfin la loi, les 5 livres. Et quand ils sortent, merveille, chacun avec sa traduction, c'est la même traduction, inspirée par Dieu. Vous prenez un texte biblique, vous le faites traduire par 10 traducteurs aujourd'hui, je vous assure que vous avez 10 traductions différentes. Ça, c'est sûr. Il n'y a qu'à voir les versions des élèves. Bon. La légende veut que, inspirée, la Bible grecque va être inspirée. C'est une Bible pour les Juifs qui parlent grec. Elle va être très vite critiquée. Et elle va être d'autant plus critiquée que, 2 siècles après, ou 3 siècles après, les chrétiens, bien sûr, en Palestine, ce qui ne s'appelle pas encore Palestine, en Judée, Galilée, Samarie, on parle araméen, et Jésus et ses disciples parlaient araméen. Mais le christianisme va très vite sortir dans le monde grec, et d'ailleurs il y avait beaucoup de gens qui parlaient grec par là. Les auteurs chrétiens, en tout cas, Paul de Tarse le premier, qui savait l'araméen, les évangélistes ensuite, qui parlent grec, vont lire cette Bible en grec, et ils vont se l'approprier. Et au bout de quelques temps, il va falloir 1 ou 2 siècles, les juifs rejetteront cette Bible en grec, parce qu'elle est devenue trop chrétienne. Ça va ? Donc la Septante, la traduction grecque, est devenue l'Ancien Testament des chrétiens et le Nouveau Testament est tout entier écrit en grec. Ça marche ? Voilà, ça c'est pour que vous soyez au clair sur les traductions. Dernière chose, il y a des façons différentes de se référer au livre. Et ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure de la Bible hébraïque qui restait la même pendant des siècles. La tradition juive a fixé le texte consonantique de l'hébreu très tôt, c'est fixé à Qumran, on retrouve le même au 7e, dans les beaux rouleaux du 9e siècle ou du 10e siècle, Leningrad, le codex de Leningrad au 10e siècle, c'est le même. Et la façon de lire a été fixée entre le 6e et le 8e siècle, ça ne bouge pas, on ne doit pas bouger ce texte. Voilà. Il est fixé, on l'apprend par cœur, après on le commente à l'infini, et ça dès le début. Ça commence par la Mishnah, puis la Gemara, puis le Talmud, tout autour, on commente à l'infini, même si on ferme le Talmud, on continue à commenter, donc on a une autre façon de faire exploser le texte. Chaque verset, chaque petite lettre de la Bible est pleine de sens. Chaque yod, c'est-à-dire le i, le petit i, est plein de sens. Il faut tout commenter, faire exploser. Voilà. Mais le texte ne bouge pas. Chez les chrétiens, c'est très différent. Chez les chrétiens, c'est très différent. On ne lit pas selon la lettre, on lit selon l'esprit. Le texte est recopié avec plein de fautes, avec des fois des phrases un peu différentes, on laisse tomber des morceaux. Peu importe. Le magistère chrétien n'a jamais fixé un texte notamment du Nouveau Testament. Le texte grec du Nouveau Testament, il a toujours bougé. Vous savez qui sont ceux qui l'ont à peu près fixé, au moins en Occident ? C'est les savants allemands de la fin du 19e siècle. Monsieur Nestlé, Monsieur Haaland. Alors d'abord, ils étaient protestants, et ensuite, le magistère de l'Église, longtemps après, parce que l'Église catholique, qui réagit toujours avec 50 ans de retard, a créé une commission qui a été bien d'accord pour ce texte, qui était un très bon texte, qu'on va un peu améliorer, mais presque pas. Ça marche ? Le texte de la Bible chrétienne, Septante, d'abord, puis Nouveau Testament, Ancien et Nouveau Testament, a beaucoup bougé. Bien sûr, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. C'est en gros. Mais le détail bouge. Les mots peuvent changer. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, le Nouveau Testament qu'on vous vend à Athènes a à certains endroits pas le même mot que le Nouveau Testament que je peux avoir là sur ma table en grec. Parce que c'est la tradition byzantine et que moi, j'ai celle des Allemands. Peu importe. C'est le même récit. On lit selon l'esprit. Et d'ailleurs, c'est fait pour être traduit. Vous connaissez le récit de Pentecôte. annoncée, afin que, de sorte que chacun l'entende dans sa propre langue, traduit dans toutes les langues de la terre. Dans toutes les langues de la terre, l'Alliance biblique, aujourd'hui, a traduit, je crois, au moins le Nouveau Testament, mais je crois que ça avance pour l'Ancien Testament, à peu près 5 milliards. Alors les langues, c'est compliqué parce qu'il y a des langues que quelques milliers d'individus parlent. Mais pour plus de 5 milliards de personnes sur la Terre peuvent lire la Bible dans leur propre langue. 5 milliards, c'est pas mal. Parce qu'on le commande selon l'esprit. Dernière remarque, l'ordre des livres. C'est important parce que si vous achetez une Tobe, vous n'aurez pas le même ordre de livres que si vous achetez une Bible de Jérusalem. Sauf pour les 5 premiers qui ne bougent pas. La Bible hébraïque, elle est construite par cercle concentrique. Au centre, la loi, qu'on appelle la Torah. Le Pentateuque en grec, 5 rouleaux. Au centre, les 5 livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Autour, les prophètes. Nébihim, c'est le nom des prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. C'est simple, il n'y en a pas d'autres. Ces 3-là et les 12. Et autour, les écrits que tout vîmes, psaumes, proverbes, livres de Job, Daniel, les 5 rouleaux, avec le Cantique des Cantiques, Esther, les Lamentations, le Coëlette et je ne sais quoi que j'ai oublié. Voilà, ça va ? C'est des cercles de plus en plus périphériques. Le centre, c'est la loi. Voilà. La loi, ça ne bouge pas. Ensuite, on commente avec les prophètes, c'est ça qu'on fait à la synagogue. Hein. On lit d'abord la loi, mot à mot. On la traduit mot à mot. Ensuite, les prophètes, on traduit des passages par passage, et ensuite des écrits. Et ensuite, alors, il va y avoir d'autres livres, des apocryphes, que les chrétiens ont récupérés parce qu'ils sont écrits en grec, mais qu'on lit quand même et qui ne font pas partie de la Bible. Le livre de Tobie, le livre de Judith. Judith, ça veut quand même dire la juive. Excusez-moi. Ben, ça, il n'est pas dans la Bible hébraïque. Il n'est pas dans les Bibles protestantes qui ont pris la Bible hébraïque. Mais on le lit, évidemment qu'on le lit. Bien sûr qu'on le lit. Mais il ne fait pas partie de la Bible, c'est comme ça. Ça va ? Voilà. Les chrétiens, eux, lisent suivant l'ordre historique. Et la Septante, mais comme on n'en a que des manuscrits chrétiens, on pourrait, sauf les rouleaux séparés, mais quand vous avez des rouleaux séparés, vous ne savez pas dans quel ordre c'est classé. Hein. Tant que ce n'est pas sous forme de livre... et le livre apparaît avec le christianisme premier siècle, vous n'avez pas l'ordre. La Septante va apparaître dans les manuscrits, les livres chrétiens, sous cet ordre-là, un ordre historique. On est un peu focalisé par l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on relie tout à partir d'un événement de l'histoire, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que j'ai mis une espèce d'aimant. Ma barre noire, là, ça veut être un aimant. Un aimant qui attire toute la Bible à lui. Alors, on a les livres de la loi, les livres dits historiques, ils sont des fois pas historiques du tout, mais ça fait rien, les écrits, les psaumes, les proverbes, le livre de Job, et on termine par les prophètes. Pourquoi ? Eh bien, parce que les prophètes sont ceux qui annoncent le plus, ou dans lesquels on trouve le plus d'annonces d'un Messie, et que Jésus-Christ viendra surtout remplir les annonces prophétiques. Et le dernier des prophètes, le tout petit dernier, il s'appelle Malachi, et qu'est-ce qu'il annonce ? Le jour du Seigneur, préparez les chemins du Seigneur qui vient. Il va envoyer son envoyé Élie qui préparera les chemins. Vous ouvrez l'évangile, Jean-Baptiste apparaît, préparez les chemins du Seigneur. Ça marche ? Voilà. Donc les chrétiens ont reconstruit cet ordre-là que vous trouvez dans la Bible de Jérusalem et dans la Bible Nouvelle Français Courant et dans les Bibles protestantes aujourd'hui qui excluent les textes de la Septante mais qui gardent son ordre. Ne demandez pas la cohérence. Voilà, donc il y a des ordres différents. Je ne vais pas vous le montrer ici parce que c'est invisible sur le PowerPoint. Vous en avez des listes dans votre dossier. Si ça vous amuse de comparer l'ordre des livres dans ces listes, vous ferez le travail, ça n'a pas un grand intérêt. On s'arrête là. J'ai dépassé l'heure, même pas. Je n'ai même pas dépassé l'heure. Si vous avez une question, j'y réponds. Et ensuite, librairie et déjeuner. Non. La Bible hébraïque s'appelle donc le Tanakh à cause de, je ne l'ai pas dit, à cause de Torah, Nébihim, Ketuvim. Vous voyez, TNK. TNK. Si vous vocalisez avec des A, à défaut d'autre chose, ça donne Tanakh. Et aujourd'hui, les Juifs parlent du Tanakh, ça va ? Pas de la Bible. La Bible, c'est du grec. Tanakh. La Septante, la Bible, il y a les livres. A évidemment ces livres de la Bible hébraïque, traduits en grec. Elle en ajoute d'autres, parce qu'il y a eu des livres grecs dans le monde juif que les Juifs ne gardent pas. Et elle les ordonne un peu autrement, en tout cas après la loi, un peu autrement, de façon historique. Ça marche ? Exactement. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament, alors là c'est une chose énorme que je dis, mais l'Ancien Testament des chrétiens, c'est quand même d'abord la Septante. C'est le texte grec, parce que nos évangélistes et Paul lisent d'abord le texte grec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se référer au texte hébreu. Ils le connaissaient. Ils le connaissaient. Mais l'Ancien Testament des chrétiens, c'est quand même la Septante. C'est un truc qu'on ne dit pas, mais c'est quand même vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, vous avez la librairie, vous pouvez déjeuner, on se retrouve à 1h30 pour entrer dans l'histoire.